Midi 15 sur RCF, il est l'heure de retrouver le grand invité de ce Midi Lorraine aux côtés de Roger Kezel. Bonjour Roger.
Bonjour Michael.
Et nous sommes en ligne avec Bruno Théré qui est le président du comité économique et social de la Grande Région. Il va évoquer avec vous les grands dossiers qui concernent cette grande région transfrontalière qui regroupe la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine.
Bonjour Bruno Théré.
Bonjour Michael, bonjour Roger.
Vous présidez cette instance transfrontalière qui regroupe des représentants patronaux et syndicaux. On va peut-être dire un mot d'abord sur la Grande Région rapidement. Comment est-ce qu'elle est gouvernée? Qui est-ce qui est président aujourd'hui de la Grande Région? Il y a un président?
Alors il y a un président, ça tourne tous les deux ans, c'est le président Jean Rottner qui est président de la région Grand Est, aujourd'hui qui préside le sommet des exécutifs de cette Grande Région qui est composée de trois piliers. Le pilier c'est le secrétariat des exécutifs, le CPI, c'est le comité parlementaire interrégional et le conseil économique et social de la Grande Région qui est la voix de la société civile organisée.
Et dont vous êtes le président.
Dont je suis le président pour deux ans.
Comment la Grande Région a vécu l'année dernière la fermeture des frontières au printemps et puis même l'instauration des tests obligatoires pour les frontaliers? Ça a laissé des traces cette affaire-là?
Oh, ça a laissé beaucoup de traces, vraiment. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a remarqué une absence de coordination qui était complètement insuffisante. Donc, on peut dire que tout ce qui était interterritorialité résultant aujourd'hui des accords, lorsqu'il y a libre circulation des marchandises et des personnes en Europe, on peut dire que ce droit était bafoué aujourd'hui. Et même, c'est encore plus choquant, dans l'espace Schengen, les frontières ont été fermées et il faut en tirer vraiment les enseignements parce que les travailleurs frontaliers en ont pâti et nos espaces de coopération également.
Elle peut se remobiliser autour de quoi cette Grande Région? Vous travaillez dessus au niveau du CESGR, on va en parler, mais c'est les axes de mobilisation, c'est lesquels? Qu'est-ce qui peut redonner du sens à cette Grande Région, sachant que les dirigeants sont quand même plutôt tous pro-européens?
Alors, premièrement, on peut dire quand même que ça a laissé des traces, mais également des traces positives, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges et de solidarité. Mais on peut dire que pour l'avenir, la gestion de la crise, l'anticipation d'autres crises à venir, qu'elles soient même climatiques, aujourd'hui, et même la gestion hors du temps de crise, il faut regarder cette leçon, la nécessité d'approche territoriale, décentralisée et intégrée, fondée sur une application conjointe des élus et agents locaux, et en France, des préfets, l'administration déconcentrée, et copilotée notamment par les services publics, un contexte transfrontalier. Il faut une gouvernance transfrontalière beaucoup plus structurée et beaucoup plus agile, c'est important, en associant la société civile, notamment les représentants des habitants et des forces économiques.
Vous avez présidé mardi dernier une séance plénière du CESGR, du Comité économique et social de la Grande Région. Hélas, vous l'avez fait en numérique, je dis hélas parce que le présentiel c'est quand même important. Quels sont les grands axes de la réflexion que vous avez pu avoir dans cette séance? Vous avez parlé de quoi? Pour dire autrement, vous avez parlé de quoi? Santé quand même, je pense.
Alors, bon, c'est le sujet d'actualité, la santé plus que jamais aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de préoccupation. Ça fait longtemps que le Conseil économique et social a remis des préconisations dans ce sens. On a de belles expériences avec notamment des sujets comme Causan, comme Zoast et autres, des expériences belges qu'on peut démultiplier sur nos territoires. Donc ce que l'on veut, c'est qu'il y ait davantage de collaboration renforcée, un observatoire de la santé comme nous avons un observatoire aujourd'hui du travail. Il faut qu'il y ait une aide médicale d'urgence avec une bonne collaboration sur les diagnostics, ces formes de collaboration. Il faut des outils de référence, il faut des véhicules d'urgence, voilà, de chaque côté des frontières. Le but, c'est que dans cet espace de 12 millions d'habitants, fait deux fois la Belgique, on puisse être soigné le plus rapidement au plus près, sans que c'est des conséquences pour le budget des ménages.
Et sans qu'il y ait de notion de frontière. C'est-à-dire qu'au-delà des frontières, je veux dire.
Frontières, non pas fractures, mais coutures aujourd'hui, un seul espace. Et on l'a fait également pour la sécurité et pour les douanes. Je pense que pour la santé, c'est primordial. Alors, le sujet de la santé, ce n'est pas uniquement ça. C'est aujourd'hui faire en sorte qu'on puisse trouver des médecins de part et d'autre des frontières, qu'on puisse mutualiser nos moyens. Ça me semble tout à fait fondamental aujourd'hui, qu'il y ait des établissements de santé pour pourvoir aux besoins de nos populations.
On parle des friches industrielles, c'est un dossier que vous regardez?
C'est un dossier tout à fait intéressant parce qu'à travers les friches industrielles, on dépollue, donc c'est un problème de pollution, de normes également transfrontalières, et surtout construire les cités du futur. Et là, au niveau transfrontalier, on peut trouver du lien en sachant que sur ces frontières, il y a des travailleurs transfrontaliers qui sont de chaque côté des versants et que le but, c'est limiter les transports. Et à travers les zones transfrontalières, on peut créer du lien, on peut donner du sens à l'économie verte et impliquer aujourd'hui des smart cities, c'est-à-dire des nouveaux modèles qui sont liés aujourd'hui au Green Deal, qui sont liés à la circularité, à la nouvelle économie. Et je pense que là, ensemble, sur des bases concrètes de zones de co-développement, qu'on pourrait ensemble mieux se rejoindre sur des objectifs communs.
Il y a un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup aussi, c'est les relations avec le Luxembourg, puisque vous êtes très implanté au Luxembourg, vous, à titre personnel. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire un peu le déséquilibre avec le Luxembourg? Le Luxembourg se développe très fortement, crée des emplois, aspire quand même un peu des compétences. Comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus concerté avec le Luxembourg, entre bon, notamment la France et le Luxembourg?
Bon, on se rend compte qu'on est tous interdépendants, et que le Luxembourg, en termes de souveraineté, ne pourrait rien faire au niveau économique s'il ne pouvait pas compter sur les 110 000 Français qui viennent travailler chaque jour au Luxembourg dans l'économie réelle. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, c'est réduire les écarts au niveau social. On dit souvent que le Luxembourg paie bien, c'est vrai, mais le logement également très onéreux. Ce qu'on peut faire concrètement là-dessus, c'est réduire les écarts, mieux utiliser les compétences du voisin aujourd'hui, en créant également des fonds de co-développement sur des projets mutualisés et communs qui répondent aux besoins des deux parties.
Voilà, on n'en est pas encore là pour l'instant. Hein. On est encore plutôt dans la dernière CIG, a plutôt donné beaucoup de choses sur les infrastructures, mais le co-développement, c'est encore un peu difficile. Mais c'est un combat que vous menez au quotidien, vous.
C'est un combat quotidien, il faut donner du sens. Tout le monde, je pense, chacun a sa définition du co-développement. Ce n'est pas une zone franche aujourd'hui.
Donc c'est pas une zone franche, il faut bien dire ça, effectivement, oui.
Voilà, ce qu'il faut, c'est dire comment est-ce qu'on peut faire pour le logement, comment créer des nouvelles cités aujourd'hui qui comportent aussi bien des start-up, du logement, des zones de loisirs, qui revoient aujourd'hui, c'est important, l'aménagement du territoire dans sa globalité, la mobilité également, la mobilité active pour les habitants de cette frontière. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts sur la mobilité. Pour cette mobilité, il y a encore des choses à faire. Je pense voir des interconnexions qu'on peut avoir, des lignes qui nous rapprochent plus directes avec la France et avec le réseau européen. Ça, c'est fait. On a mis de l'argent. Mettons pour aller plus loin sur des projets en termes de santé, de formation en termes de santé, en termes d'aide médicale d'urgence. Ça peut être quelque chose d'important. En termes de l'éducation, en termes de culture, en termes de tourisme. Bon, on peut aller beaucoup plus loin. Et j'espère que cette crise a mis en évidence le fait qu'on est tous interdépendants et qu'il y a un problème de souveraineté de part et d'autre, et ensemble on est plus fort dans cette grande région. Donc il faut bien identifier les projets qui rassemblent les citoyens pour mieux être ensemble. Et il y a un projet d'ailleurs, un projet de stratégie transfrontalière, c'est un programme intérêt qu'on doit valider point par point, et le Conseil économique et social s'en empare pour exprimer aux exécutifs aujourd'hui les besoins de nos concitoyens dans les différents domaines qui les intéressent.
Pour vous, le transfrontalier,
dans leur quotidien.
Le transfrontalier, c'est extrêmement important.
C'est fondamental, ça redonne à chacun de souveraineté, une part de croissance et de bien-être. C'est important en réduisant les écarts et surtout en réduisant aujourd'hui les freins qu'il peut y avoir. Et ce sont souvent réglementaires, législatifs.
Merci Bruno Terret, président du CVGR, du Comité économique et social de la Grande Région. À très bientôt, Bruno.
Merci, au plaisir de vous retrouver.